Troisième et dernier temps de notre semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des drogues. Ce matin, un débat sur les rapports entre univers guerrier et univers des drogues. Nous avons parlé dans le premier volet de cette semaine de l'usage des haschiches, du haschich au 19e et 20e siècle, hier de la figure du toxicomane et de la pénalisation des drogues, toujours au 19e et 20e. Et aujourd'hui, eh bien, nous ferons le lien avec Anaïs Quin qui a préparé cette émission avec nous entre guerre et drogue, qui consommait de la drogue pendant les guerres et pourquoi. Nous le verrons avec nos trois invités. Xavier Paulès, il est maître de conférence à l'École des études en sciences sociales, il est directeur du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, il est auteur entre autres de L'Opium, une passion chinoise, chez Payot, mais également en 2010 de Histoire d'une drogue en sursis aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Stéphane Martens est avec nous. Il est directeur adjoint de l'Institut historique allemand et il est biographe de Hermann Göring, grand consommateur, je crois, de drogue devant l'éternel. Et Laurent Henninger, est avec nous. Il est chargé d'études à la revue Défense nationale et membre du comité de rédaction de Guerre et Histoire. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Bonjour à vous Stéphane Martens.
Bonjour.
Bonjour Xavier Paulès.
Bonjour.
Et bonjour Laurent Henninger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on a eu un certain mal, il faut l'avouer, à nos auditeurs, à préparer cette table ronde, parce que, tout compte fait, il n'y a pas d'ouvrage de synthèse en France sur cette question du rapport entre guerre et drogue. Et dans les marges, on peut trouver dans les ouvrages de chacun d'entre vous et dans les travaux de chacun d'entre vous des choses autour de cette question-là, mais ça n'est pas, disons, un problème central, alors qu'aujourd'hui, on le voit dans l'actualité, en particulier à cause de l'État islamique au Levant, on insiste beaucoup sur les usages, par exemple, dans les décapitations, dit-on, de l'ISIS, donc de l'État islamique au Levant, on insiste beaucoup sur l'usage de certaines drogues qui annihileraient d'une certaine façon la volonté ou annihileraient sentiments, pourrait-on dire, de ceux qui pratiquent justement ces exécutions sommaires. Donc il y a bien un débat dans l'actualité. Il y en a eu un autre au moment de la guerre du Vietnam, par exemple, avec l'usage de soldats américains, des drogues par les soldats américains. Mais il n'y a pas de travaux de synthèse, en tout cas en France, sur ce sujet-là, Laurent Henninger.
Non, pas que je sache. Il y a beaucoup, par contre, alors il y a des infos ici ou là qui traînent, que les historiens découvrent et qu'on découvre avec eux en discutant à bâton rompu à la cafétéria. Ah oui, tiens, en faisant mes recherches sur tel sujet, je suis tombé par hasard sur autre chose. Mais il y a personne encore qui a fait la synthèse. Il y a un bouquin qui s'apprête à paraître très bientôt, là, dans les mois qui viennent, chez Oxford University Press, donc en anglais, qui s'appellera « Shooting Up ». A short history of drugs and war, une brève histoire des drogues et de la guerre.
Donc, on aura au moins une synthèse, mais en anglais, c'est ce
en
que.
En anglais,
vous...
voilà.
Mais vous, Laurent Henninger, qui avez travaillé beaucoup sur l'armée, on s'attendrait malgré tout à trouver des interlocuteurs sur cette question, notamment du côté de la médecine militaire. Ces médecins militaires qui sont les premiers, finalement, à constater ou à prescrire.
Oui, il y en a. Il y a pas mal de médecins psychiatres. Puisqu'il y a des services de psychiatrie très développés dans les armées françaises, particulièrement dans la marine et dans l'aviation, pour des raisons qu'on abordera sans doute tout à l'heure d'ailleurs. Même chose chez les Américains, même chose dans les armées de tous les grands pays occidentaux. Il y a beaucoup de médecins psychiatres qui travaillent sur ces questions.
Il y a des observations, il y a des constatations, mais il n'y a pas de publication sur le sujet.
Il y en a un petit peu, mais ça reste plutôt confidentiel. Mm-hmm. Pas forcément secret, hein, faut parce que
c'est pas ce qu'on disait d'ailleurs.
C'est parce que cette histoire de drogue et de guerre, en fait, moi j'ai un petit peu cherché à trouver des infos moi aussi en préparant cette émission et j'ai eu la confirmation de quelque chose dont j'avais eu l'intuition depuis un petit moment. Il y a énormément de fantasmes, énormément de fantasmes, énormément de légendes et qu'il faut dégonfler la baudruche une fois pour toutes parce que il y a pas rien. Mais il n'y a pas non plus grand-chose.
Ouais.
Exemple, vous avez cité tout à l'heure, en présentant l'émission, vous avez parlé de cette grande légende, qui est véritablement une légende urbaine, d'une armée américaine au Vietnam qui était complètement stone du matin au soir. C'est faux. C'est faux. Alors, il y avait vraisemblablement pas mal de soldats américains, parce que c'était l'époque aussi, qui, à l'arrière, à Saïgon.
Les films nous ont transporté cette image-là.
Voilà.
Mais c'est un usage récréatif.
Mais c'était pas au front. Déjà, faut savoir une chose, c'est que quand on est drogué ou ivre, hein, parce qu'en fait, il faut mettre, quand on aborde ce débat des drogues, il faut absolument inclure l'alcool aussi dedans.
Bien sûr. Hein,
il faut savoir une chose, c'est quand vous êtes drogué ou ivre, de toute façon, vous n'êtes pas très efficace en tant que soldat, hein. Sauf si c'est à certaines doses assez faibles, dans certaines conditions, certaines drogues particulières, etc. Mais sinon, a priori, vous faites pas un bon soldat, hein. Donc on a beaucoup trop brodé là-dessus.
Et si on reprend néanmoins de façon historienne cette question depuis le départ, vous situeriez cette question, vous, Laurent Henninger, à quel moment elle se pose? Est-ce que c'est avec l'arrivée de la chimie moderne? Est-ce que c'est au 19e siècle, comme on le dit souvent, que cette question devient un peu plus importante, y compris dans le domaine militaire, qu'auparavant? Ou est-ce qu'il y a toujours eu des manières, disons, de se doper pour pouvoir aller au combat et pour pouvoir avoir un peu de courage face à l'adversaire, Laurent Henninger?
Moi, je dirais qu'il y en a eu à toutes les époques, hein, depuis la préhistoire.
Mais
je pense qu'il faut distinguer trois grandes périodes. La première période, c'est depuis la préhistoire jusqu'à, alors selon les aires civilisationnelles, selon les parties du monde, jusqu'à une époque relativement récente, c'est par l'usage de la pharmacopée naturelle, des champignons hallucinogènes, des choses comme ça, qu'on peut éventuellement induire des états de transe ou de semi-transe. On sait par exemple, enfin on croit savoir, on n'est même pas sûr totalement, que par exemple chez les anciens Scandinaves, chez ceux qu'on appelle les Vikings, il y avait des sectes totémiques dont l'une la plus célèbre était celle des berserkers, hein, c'est-à-dire les adorateurs de l'ours, comme le nom l'indique, qui vraisemblablement étaient recrutés chez les épileptiques. Et pour induire des crises d'épilepsie au moment désiré, c'est-à-dire au moment du combat, vraisemblablement, il y avait usage de champignons hallucinogènes dans des doses assez faibles.
Mais là, c'est un exemple. Oui, mais là, on est dans le domaine de l'hypothèse. Encore.
On est dans le domaine de l'hypothèse, ouais. Enfin, de l'hypothèse sur lesquelles les spécialistes de ces questions ont quand même quelques biscuits, si vous me passez l'expression. Mais il y a des choses de genre avec chez les Aztèques, dans les peuples mésoaméricains aussi, on a trouvé des pistes de ce genre chez les peuples sibériens, chez les etc. etc. Bon, on a pas mal de choses. La légende des hachichines, par contre, ça, il semblerait les fameux hachichines.
Oui, on en parlait dans le documentaire de mardi. Oui,
ça, il semblerait que ce soit là aussi un peu comme les Américains pendant le Vietnam. Il semblerait que ce soit une énorme légende. Il y a ça qui se poursuit. À partir du XVIe siècle et à partir de l'introduction de deux choses, d'une part de l'introduction des alambics en Europe occidentale, qui permettent de distiller l'alcool, mais également à partir de l'introduction des armes à feu, et donc de ce que les historiens modernistes appellent la révolution militaire des temps modernes, il semblerait que l'usage d'alcool fort, c'est-à-dire allant au-delà du simple vin, de la simple bière ou hydromel, se développe. Mais pour tenir le choc mentalement face à l'horreur du champ de bataille, c'est pas que le champ de bataille devient plus horrible d'un point de vue strictement blessure ou quoi que ce soit, mais c'est parce que de plus en plus avec les balles ont une telle vitesse que ça devient un champ de bataille une bataille et un adversaire, les balles et les boulets, contre lesquels les hommes ne peuvent plus rien, n'ont aucune prise, c'est le cas de le dire. Donc face à ça, peut-être que l'alcool se développe. Et puis la chimie du 19e siècle, là, surtout fin 19e siècle, là commence à changer les choses.
Alors justement, au 19e siècle, c'est le moment qui nous intéresse et qui vous intéresse particulièrement, Xavier Paulès. Vous êtes auteur de deux livres et d'une thèse sur la question de l'opium. Et évidemment, ce 19e siècle, c'est celui de guerres qui ne sont pas des guerres par des opiomanes ou pour des opiomanes, mais ce sont des guerres qui prennent prétexte du trafic de l'opium entre l'Occident et la Chine, l'Empire de Chine, pour pouvoir déclencher un conflit lié au commerce, et en particulier au commerce de cette drogue, Xavier Paulès.
Oui, la guerre de l'opium tire son nom du fait que le casus belli était le trafic de l'opium, mais c'était une guerre dans laquelle les combattants n'ont absolument pas, enfin, les combattants côté chinois ne combattaient absolument pas sous l'influence de l'opium ou d'une autre drogue. Simplement, on rentre avec la consommation d'opium par les soldats chinois dans une catégorie un petit peu annexe, qui est que les militaires utilisent des drogues dans le cadre du champ de bataille, mais aussi ils se droguent parce que tout simplement un militaire, un soldat se bat pendant une fraction infinitésimale de son temps. Le reste du temps, il attend.
Il s'ennuie.
C'est le désert des Tartares.
Il est cantonné dans des conditions pas très amusantes. Et donc, pour vaincre cet ennui, eh bien, en Chine, il va fumer l'opium. Alors, il y a une des raisons pour laquelle l'opium, la consommation d'opium par les soldats peut être considérée comme un facteur qui mène au déclenchement des guerres de l'opium, c'est l'alarme qui saisit les hauts administrateurs chinois dans les années 1830, quand ils se rendent compte que des rébellions dans le sud de la Chine se déclenchent. Bon, ça, c'est quelque chose de très classique, hein, c'est une minorité, en l'occurrence les Yao, en 1832. Des rébellions se déclenchent, on envoie des troupes pour les réprimer, en s'aperçoit que ces troupes sont tellement atteintes par la consommation d'opium qu'elles sont inefficaces. Et donc, on est obligé de renvoyer une bonne partie d'entre elles dans leur cantonnement. Et donc ça enclenche dans les hautes administrations chinoises un débat sur l'opportunité de vraiment lutter contre l'importation anglaise d'opium, et à partir de là, les Chinois vont serrer la vis et ça va déclencher la guerre de l'opium.
Parce que contrairement à ce que l'on croit, en particulier en Occident, et à l'image qui a été transportée par ce 19e siècle et même par le 20e siècle, et par le lotus bleu d'une Chine qui serait unanimement et uniformément touchée par la consommation de l'opium, les Chinois ont toujours considéré, en particulier au XVIIIe siècle, que c'était une drogue étrangère imposée à leur pays par justement les accords internationaux ou par les guerres qu'ils avaient avec les Européens, en particulier Xavier Paulès.
Tout à fait. D'un point de vue chinois, c'est une hérésie de dire que l'opium est une drogue chinoise. C'est pour les Chinois aujourd'hui, comme pendant tout le 20e siècle et pendant une partie du 19e siècle, la drogue étrangère par excellence, yang yao en chinois, la drogue venue de la mer, venue de loin.
Et pourtant, c'est une drogue qui est vendue dans les imaginaires par les grands empires coloniaux et au premier chef la Grande-Bretagne, comme une tradition proprement exotique et proprement chinoise. Comment ce glissement a pu s'opérer en si peu de temps finalement, parce qu'on est sur un milieu de 19e siècle, entre les années 1820 et les années 1860, pour ces deux guerres qui vont imposer ce commerce de l'opium, obliger les Chinois à commercer l'opium avec la Grande-Bretagne, à accepter ces importations britanniques.
Alors, les guerres de l'opium n'ont pas été, du point de vue britannique, n'ont pas été menées pour imposer les importations d'opium. D'ailleurs, la première guerre de l'opium en 1842 se termine par un traité qui ne mentionne même pas l'opium.
Le traité de Nankin, c'est ça.
Tout à fait.
Et pourtant, l'effet est celui-là.
Pardon ?
Et pourtant, l'effet de ces traités est de permettre à l'opium de
persister. En 1860, oui, tout à fait, un peu plus tard.
La deuxième guerre.
Mais pour en venir à la justification des empires coloniaux, ce cliché d'une drogue chinoise, d'une drogue indigène, c'est un cliché qui sert évidemment les intérêts des empires coloniaux pour leur justification d'un trafic qui est extrême, enfin d'une commercialisation, d'une légalisation qui est très lucrative, qui devient en Indochine par exemple sous Paul Dumais un des piliers de la fiscalité. Et donc, de ce point de vue-là, l'argument selon lequel on ne peut pas faire sans parce que c'est une drogue chinoise, une drogue vietnamienne, est évidemment mis en avant. En plus, c'est une drogue qui, du point de vue du colonisateur, a un énorme avantage, c'est qu'il fait peser la fiscalité sur la partie de la population la plus riche, c'est-à-dire les Chinois, qui sont très majoritairement des marchands, qui sont une partie de la population relativement impopulaire parmi les indigènes et les Vietnamiens proprement dit. Donc c'est vraiment une espèce de panacée fiscale.
Anaïs Kien.
Et pourtant, il y a des débats, des oppositions sur une question de l'éthique de la commercialisation de cette substance, quel que soit son usage finalement, mais surtout dans son usage de drogue au sein même du gouvernement britannique dès ce 19e siècle. On se pose la question de savoir si la morale peut cautionner ce type de commerce et d'organisation du commerce.
Vous avez raison de le signaler. Il faut surtout pas imaginer, comme le font un petit peu les historiens chinois aujourd'hui, une Grande-Bretagne avide de saisir le prétexte pour se lancer dans la guerre en 1839, au début de la première guerre de l'opium, c'est exactement le contraire qui est vrai. On voit les dirigeants britanniques extraordinairement hésitants, tout à fait conscients du caractère éminemment immoral et illégal du trafic de l'opium en Chine. Et donc, la décision de partir en guerre est prise à une majorité extrêmement faible à la Chambre des communes. Et c'est un sujet qui est toujours relégué à la fin des séances, dont on ne veut pas parler. C'est quelque chose de vraiment un sujet extrêmement délicat. Et il ne faut surtout pas minimiser, dès 1839, minimiser l'opposition, en particulier l'opposition libérale en Grande-Bretagne, à l'entrée en guerre.
Alors, est-ce qu'une des raisons pour lesquelles les dirigeants chinois sont si hostiles à cette drogue, à cette commercialisation, à cette entrée justement sur le territoire chinois de cette drogue venue d'ailleurs, Xavier Paulès, c'est justement parce qu'ils en connaissent les capacités assez ravageuses au bout du compte. Est-ce que c'est cela qui les motive dans ce combat qu'ils veulent mener contre l'arrivée de cette opium sur le territoire chinois ?
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en faisant peut-être un anachronisme, on imaginerait que effectivement, ce sont les dégâts sanitaires au sens large qui sont la principale préoccupation de la haute administration chinoise. Donc j'ai mentionné les dégâts qui peuvent avoir lieu dans les troupes, mais ça peut être également vrai dans la population. On pourrait s'indigner du fait que des hommes ruinent leur santé, ruinent leur famille, deviennent des véritables squelettes ambulants. En réalité, c'est pas ça qui préoccupe la haute administration chinoise. Ce qui la préoccupe, c'est le déficit de la balance commerciale que ça induit, et en particulier les fuites d'argent métal, hein, tout simplement parce que la Chine était basée, le système monétaire chinois à cette époque était basé sur un bimétallisme argent-cuivre, et que si vous avez très brusquement de très grandes quantités d'argent qui quittent le pays, ça désorganise complètement l'équilibre économique.
C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle les Britanniques sont entrés dans ces guerres. C'est la question aussi de qu'est-ce qu'on fait avec les relations commerciales avec la Chine, comment peut-on se mettre à égalité dans ces relations commerciales, avoir quelque chose qui est rémunérateur, à savoir cet opium, en contrepartie de ce que la Chine nous vend d'une certaine façon. Et pour que les bateaux britanniques ne soient pas avides et donc ne creusent pas la balance commerciale de la Grande-Bretagne à ce moment-là.
Tout à fait. La Grande-Bretagne, les marchands britanniques ont cherché pendant des décennies une marchandise qui puisse intéresser les Chinois pour échanger effectivement contre les marchandises chinoises dont ils avaient un besoin impérieux, en particulier le thé, les porcelaines, les accessoires dans une moindre mesure. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'était l'opium.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce commerce, cette fabrication, cette production, cette distribution et ce commerce sont organisés dans l'Empire britannique, mais ne touchent jamais finalement la métropole, puisque cette production a lieu en Inde et transite pour arriver ensuite par la Chine. Donc la métropole est très distante finalement de ces échanges de produits.
Alors, ceci est exact, mais il ne faut pas oublier qu'on consomme des opiacés en Grande-Bretagne à cette époque, mais on ne les consomme pas sous forme fumée, on les consomme sous forme de solution. Le Danone est extrêmement célèbre de ce point de vue-là, avec des circuits qui sont effectivement différents. L'opium vient plutôt de Turquie, mais c'est un peu...
Donc c'est pas la même opium.
Si, enfin, c'est la même substance, mais disons que c'est un peu comme le vin, si vous voulez, l'opium. C'est une substance très complexe, et donc il y a des bons opiums, des mauvais opiums. L'opium turc, du point de vue d'un consommateur chinois, c'est un peu de la bibine. C'est-à-dire que c'est pas un bon opium. Le bon opium, c'est l'opium indien.
Alors, vous dites tout de même que ça n'est pas une question sanitaire qui pousse les autorités chinoises à tenter de mettre un terme à cette question de la consommation de l'opium, en particulier sur le territoire, mais dans une de vos pages, page 189 de votre livre sur l'opium, une passion chinoise chez Payot, vous expliquez bien que en 1908, selon le rapport d'un fonctionnaire mandchou, 60 à 70% des hommes du rang parmi les troupes des bannières de la ville de Fuzhou sont des fumeurs d'opium, que d'autre part, aux quatre coins de l'Empire, les soldats en garnison dans des zones reculées trompent l'ennui, comme vous le disiez tout à l'heure, dans lesquelles ils sont plongés en prenant de l'opium, que Paul Pelliot, qui est alors au Xinjiang, consigne dans son journal de voyage de 1908, qu'il a juste un soldat de 22 ans qui n'est pas touché par la consommation de l'opium, et qu'au bout d'un certain temps, on va finir par parler de soldats aux deux fusils, à propos des soldats qui s'adonnent à l'opium, un jeu de mots qui porte sur le terme de pipe à opium d'un côté, en chinois, et qui signifie littéralement le fusil à opium, Xavier Paulès.
Tout à fait, Yan Qiang, donc les armées aux deux fusils. Alors ceci est bel et bon, et effectivement, c'est vrai, mais ça concerne le 20e siècle, oui, le premier 20e siècle, c'est-à-dire que la période dont on parlait, la période du grand débat sur la nécessité de supprimer l'opium, c'est 1836-1838, en gros, hein, et c'est un moment où la société chinoise était beaucoup moins concernée, et la consommation d'opium était beaucoup moins généralisée que dans cette décennie, à mon avis, qui est l'apogée véritable de la consommation, de la présence de l'opium en Chine, c'est-à-dire la décennie, à mon avis, 1890, et éventuellement on peut aller jusqu'en 1906. 1906, c'est le grand plan de 10 ans de suppression de l'opium initié par la dynastie Qing qui sera un grand succès.
Stéphane Martens, si on s'intéresse à l'autre bout de la péninsule asiatique, c'est-à-dire à notre bonne Europe, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette question des usages des drogues, soit synthétiques, soit chimiques, soit naturelles, dans en particulier les troupes allemandes de la fin du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle à la veille de la guerre de 14?
À la veille de la guerre 14, pour l'armée allemande, les drogues, c'était pas, disons, un élément essentiel. C'est différent pour la deuxième guerre, mais pour la première guerre, c'est beaucoup moins le cas. Je crois que c'est comme ici en France, c'est plutôt le vin, l'alcool qui sert. Parce que à quoi sert, entre guillemets, la drogue? C'est pour supprimer la peur, pour euphoriser d'une manière ou d'une autre.
Au moment des attaques.
C'est aussi peut-être, il faut surtout savoir, il faut avoir une efficacité, comme Laurent Henninger a dit. Ça veut dire les drogues qui, pratiquement à ce moment-là, risquent d'endormir les soldats, ce ne sont pas la bonne solution. C'est plutôt un élément qui peut leur permettre de passer sortir des tranchées, parce que ça, c'est une grande question. Deuxième élément qui est surtout l'expérience de la première guerre, c'est pratiquement toutes ces maladies qui sont ensuite les réactions psychiques. C'est à partir de ce moment-là où on s'intéresse qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ce sont les traitements avec des électrodes, etc. Ça veut dire là, il y a toute une série d'éléments qui initie la médecine militaire à penser, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions pour les soldats?
Anaïs Quin, puis Laurent Henninger.
Et d'ailleurs, avant les années 1950, donc après la Seconde Guerre mondiale, on n'arrivera pas véritablement à maîtriser les questions d'anxiolytes, de traitement de l'angoisse, de traitement de la dépression. Donc on va plutôt chercher à soigner les douleurs de ces traumatisés plutôt que de les soigner véritablement. Mais ce qui me paraît intéressant aussi, quand on regarde un petit peu l'histoire de cette substance dont on fait grand cas sur Internet, un peu sur tout type de sites, c'est le pervitin qui aurait été beaucoup utilisé par la Wehrmacht. Mais on se rend compte aussi, on a l'impression que cette substance n'est pas planifiée dans l'organisation de la guerre.
Aussi.
Finalement, c'est l'usage, oui. L'usage familier, l'usage individuel qui amène à constater que cette drogue peut être utile et peut constituer une véritable arme.
Pour le pervitin, c'est très très compliqué parce qu'en fait, c'est d'abord une drogue.
Alors, c'est une méthamphétamine, c'est ça.
Voilà, aujourd'hui crystal meth, comme on dit, mais c'est à l'époque à une dose beaucoup plus limitée. C'est un peu pratiquement un phénomène de société des années 30 qu'on commence pratiquement à y songer. Première étape, c'est peut-être même les Jeux Olympiques en 36, lorsqu'on s'est aperçu que du côté des athlètes, surtout des athlètes américains, on utilisait le Vincédrine. Ça veut dire là, on commence du côté des petites entreprises pharmaceutiques d'y réfléchir, mais qu'est-ce qu'on peut
synthétiser comme nouvelle.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est au début beaucoup plus un produit qui s'adresse au grand public. Et la première création en 38, et on met ça sur le marché en 38. En 39, c'est la Wehrmacht qui commence à s'y intéresser. Et c'est un officier de la Wehrmacht qui travaille pour un institut qui, justement, s'intéresse à la psychologie des soldats. À ce moment-là, en 39, il fait une première série de tests et il s'aperçoit que ça peut permettre que les soldats restent plus longtemps active,
éveillée,
et à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant.
Et à moindre coût, d'ailleurs.
Un coût très très limité. Et la suite, en fait, c'est en avril 40, on donne pratiquement un ordre que ce médicament doit être introduit dans l'armée allemande. Et on passe à une commande de 35 millions de comprimés. Mais pour dire que la France a été battue par le pervitine, ça, à mon avis, c'est faux. Parce que vous avez 3 millions de soldats. Ouais. Vous avez une production de 35 millions qui peut-être est réalisée parce que Tremblay, c'est une société qui est très, très limitée à l'époque, très, très petite. C'est peut-être dans un an, mais pas, ça veut dire entre avril où l'ordre a été donné et mai 40. C'est impossible à ce moment-là que tous les soldats allemands sont déjà pratiquement en possession de ces comprimés. C'est aussi plutôt quelque chose qui s'adresse à des soldats spécialisés, par exemple les pilotes de chasse ou les tankistes. Et c'est plutôt que c'est vraiment une dose très pointue donnée à certains soldats pour améliorer l'efficacité.
On n'arroserait pas tous les fantassins, c'est
ce que vous dites. Non, pas du tout. Martin. D'autre part, les soldats, comme par exemple un simple soldat comme Heinrich Böll, qui était ensuite prix Nobel de la littérature, lui, il écrit à sa famille, est-ce que vous pouvez m'envoyer encore de la pervitine? Parce que ça passe en fait par la société civile. C'est pas encore sur une liste de drogues qui sont interdites. Ça veut dire là, en 39, 40, 41, on est encore dans une phase qui est très ouverte. C'est que à partir de 41 que le régime nazi insiste que c'est une drogue. Et dans ce cas-là, il faut que ça reste limité à une
catégorie.
Oui, voilà, c'est pas prescription.
Mm-hmm. Laurent Heininger.
Oui, avant de continuer sur la pervitine, parce que la pervitine et les amphétamines ensuite, parce que là c'est vraiment le gros sujet. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière. La Première Guerre mondiale. Il y a eu quand même un phénomène très important pendant la Première Guerre mondiale, c'est la consommation massive dans les hôpitaux pour soigner les blessés de morphine. Et donc la morphine s'est vraiment répandue dans les populations. Absolument. De tous les pays belligérants.
Sans compter le vin Mariani.
Oui, alors le fameux vin Mariani.
Qui était totalement autorisé et qui était dosé à petite dose de cocaïne, de coca, de feuilles de coca.
C'est vrai.
Et qui a été utilisé aussi pendant la Première Guerre mondiale pour pouvoir soutenir le moral des soldats.
C'est vrai, mais c'était des dosages incomparables. La morphine, ça a commencé à poser un vrai problème parce qu'il y a des millions d'hommes qui sont passés, qui ont été blessés et qui ont subi que des blessures affreuses, on a dû leur injecter des doses massives et régulières de morphine. Ça a donné les premières addictions, ça c'est la première chose, et ça a donné lieu au premier trafic de drogue. C'est là qu'il y a des ampoules de morphine qui ont commencé, comme on dirait aujourd'hui, à tomber du camion. Et d'une part, mais également la drogue qui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces drogues-là, la morphine, la cocaïne, etc., qui existaient mais qui étaient réservées à des micro-élites de la société.
On en parlait hier.
Elles ont commencé.
Ou à certains ateliers, quand même.
Elles ont commencé à se répandre dans des couches beaucoup plus vastes de la population. Ça, c'est quand même un point important.
Oui, mais
notamment chez les pilotes déjà aussi, parce que il y avait l'idée d'avoir un shoot, quoi, d'avoir
de la performance,
une
performance,
vigilance, ouais. De garder sa vigilance.
Vigilance, mais également de pousser l'adrénaline.
Mais c'était quand même toujours un élément de soin. C'était pas pratiquement une stratégie militaire à ce moment-là d'utiliser la morphine.
C'est vrai.
Un grand secret de justice si bien gardé. L'amour chantait dans mon cœur, ainsi qu'un printemps vainqueur. La vie était belle, traînant avec elle tout un univers de bonheur.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
De s'est dressé brutal, et la poudre folle l'a blanchi d'ole. Un soir m'a donné son mal. La l'affreuse drogue.
La blanche idole, l'affreuse drogue, c'est un titre de 1932 signé La Palma. Alors si on passe de cette Première Guerre mondiale qui vient d'être évoquée par Laurent Henninger à cette seconde, vous nous avez déjà dit, Stéphane Martens, qu'il fallait pas surinterpréter l'idée que la victoire allemande de 1940 était due justement à l'usage de ces, en particulier de cette pervitine qui améliore d'une certaine façon la vigilance et permet de ne pas dormir aussi souvent que n'importe qui.
C'est vrai,
mais que effectivement aujourd'hui le travail des historiens nous montrait qu'il fallait être très prudent sur cette question-là. Et Anaïs a bien évoqué cette prolifération, pourrait-on dire, sur Internet aujourd'hui, de sources plus ou moins fantaisistes qui laissent entendre, comme le disait tout à l'heure Laurent Henninger, que eh bien, on pourrait relire l'histoire des guerres à travers l'histoire de ces usages des drogues, Stéphane Martens.
Oui, ça, c'est un peu aussi l'effet de, disons, de la distance entre les chercheurs et le grand public. Par exemple, en Allemagne, il y a des historiens qui sont spécialisés dans l'histoire de la médecine, qui ont depuis des années travaillé là-dessus, qui ont utilisé les mêmes sources, comme par exemple aujourd'hui Norman Ohler, qui a écrit un ouvrage sur l'ivresse totale. Et là, il donne cette thèse que non seulement la Wehrmacht en 40, grâce à pervitine, mais surtout Hitler, à partir de 42-43, grâce à Eucodal, qu'il a reçu par son médecin traitant, aurait été dans une phase euphorique, etc. Ça veut dire là, c'est un peu le risque que nous vivons aujourd'hui, que le savoir, ou plutôt les informations qui passent par les circuits, entre guillemets, des spécialistes, ne sont pas toujours à la hauteur, ne sont pas toujours transmis au grand public. Et aujourd'hui, dans cette, disons, dans ce vide, il y a une chance pour des auteurs aussi bien sur le web que sous forme de papier qui s'en servent pour lancer un scoop. Et parfois, ça peut aussi être utile pour relancer aussi le débat sur certains aspects de l'histoire qui sont peut-être mal connus du grand public.
Anaïs Kien.
Il y a quand même un paradoxe qui me paraît intéressant justement quand on évoque cette histoire de pervitine, c'est le paradoxe de la médecine militaire qui doit à la fois soigner, mais également rendre performant le simple soldat, s'assurer qu'il est en bonne santé pour être efficace, mais également rendre performant ses dirigeants, ses officiers.
Oui, non, c'est surtout ici cette idée, par exemple, de la création de cet institut à Berlin, c'était qu'est-ce qu'on peut pratiquement prendre comme leçon de la Première Guerre? Ça veut dire les effets sur la psychologie des soldats. Est-ce qu'on peut éviter que, à nouveau, on trouve les gens qui tremblent partout lorsqu'il y a des... Parce qu'on s'attend, en fait, à une... de revivre, surtout ici, sur le front de l'Ouest, une situation comme en 14, ça veut dire une guerre des tranchées. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'on veut être prête. Et deuxième aspect, maintenant, avec les armes modernes, il y a aussi un décalage. Vous avez d'un côté les panzers qui sont très vite, et de l'autre côté, vous avez l'infanterie qui marche très lente.
Et donc, il faut permettre justement à cette infanterie d'aller plus vite, d'une certaine façon.
Voilà, et surtout de continuer dans leurs efforts, non seulement sur une vingtaine de kilomètres, mais peut-être par jour d'une trentaine de kilomètres.
Et de se battre en plus.
De se battre, mais surtout avoir plus de
De kilomètres parcourus.
Oui.
Et de surprendre par
une certaine endurance. Voilà. Comment est-ce qu'on peut augmenter l'efficacité des soldats? Ça, c'était un peu l'idée. C'est pour cela que ce test qu'ils ont organisé en 39, c'était plutôt dans cette perspective-là. Comment est-ce qu'on peut permettre aux soldats de rester pratiquement efficace plus que 4, 5, 6 heures, mais peut-être 24 heures ou même plus. La chose qui s'est produite, dans ce cas-là, on s'est aperçu, au début, ça marche. Mais à partir de 3-4 jours, c'est quand même le physique qui demande que ça rééquilibre. Et c'est pour cela qu'à partir de 41, pas mal d'officiers se sont plaints auprès des services sanitaires de santé de l'armée que les soldats sont pratiquement obligés de rester pendant 3 jours plus ou moins au lit parce qu'il faut récupérer. Et c'est pour cela qu'à partir d'un certain moment, on a à nouveau fait des tests pour savoir est-ce que, par exemple, Coca-Cola, ça veut dire un chocolat qui a beaucoup plus de caféine, est peut-être plus efficace par rapport à pervitine, qui est efficace pour un moment, mais pas à long terme.
Vous nous disiez tout à l'heure, Laurent Henninger, qu'il fallait réfléchir aussi à distinguer les armes. Vous disiez, la marine et l'aviation sont peut-être, dans ces usages donc qui ne sont pas des usages récréatifs, peut-être plus touchés que l'armée de terre, par exemple. Pourquoi, selon vous, y a-t-il un usage différent selon le type de d'armes que l'on sert dans les armées, Laurent Henninger?
Parce que ce sont des armes qui combattent sur des distances et des espaces gigantesques. Et donc, qui ont besoin d'avoir des hommes en nombre restreint, hein, mais qui sont capables de tenir des veilles très très longues. On l'avait déjà constaté, et on vient d'en parler rapidement pour la Seconde Guerre mondiale, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays qui a le plus travaillé là-dessus, c'est les États-Unis. On sait par exemple que l'aviation américaine a énormément travaillé sur des substances permettant à des pilotes de rester éveillés, je sais pas moi, 15 heures, 20 heures, 24 heures, sans dormir, pour tenir faire des vols très longs, notamment les vols éventuels de bombardement nucléaire, les patrouilles d'alerte permanente, etc., etc. Oui, c'est la question des distances et donc des durées. C'est là que ça se pose.
Alors Stéphane Martens, il y a pendant cette Seconde Guerre mondiale l'usage de la pervitine, on l'a dit, qu'on a nuancé dans notre discussion, mais ça n'est pas le seul des excitants que va utiliser l'armée allemande pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et tout au long de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les usines chimiques continuent à travailler, les usines pharmaceutiques continuent à produire et même à inventer de nouveaux excitants, pourrait-on dire. Et je crois qu'en mars 44, on en invente qui s'appelle, je crois que c'est le D9, c'est ça, ou quelque chose comme ça, qui contient de la cocaïne, du pervitine et de l'ococal, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Une sorte de mélange de trois excitants, un antidouleur et des excitants pour pouvoir avoir encore plus d'efficacité, pour pouvoir durer encore plus longtemps au combat, etc., etc.
Et qui est un échec total parce qu'on s'aperçoit que ça marche pas du tout. Non, on a essayé pratiquement de continuer. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire on utilise le pervitine jusqu'à la fin de la guerre et même après, parce que aussi bien la Bundeswehr que l'armée de la RDA se sont servis pratiquement des sites de production qui existaient des deux côtés de la frontière après 45 et jusqu'à en fait les années 80, même la Bundeswehr a encore utilisé ça, mais sous un, disons, très très limité, mais ça n'a pas cessé d'exister à partir d'un certain moment.
Et d'ailleurs, que deviennent ces anciens combattants après 45 qui ont pris plus ou moins de drogue, mais qui ont été exposés de manière inédite malgré tout?
Oui, ça c'est en fait il n'y a pas de soins qui sont assurés de la part de la Wehrmacht. Ça veut dire on essaye bien sûr au moment de la guerre de les réintroduire dans le service. On essaye de baisser leur utilisation des drogues. Mais en ce qui concerne la période après 45, vu que l'Allemagne a capitulé, il n'y a pratiquement aucun service qui s'en occupe. Ça, c'est pratiquement plutôt une question qui est individuelle à résoudre par la famille. En ce qui concerne les drogues de la fin de la guerre, ça, c'est pratiquement aussi le résultat de l'évolution des armes, parce que là, du côté de la marine, on a voulu créer des petits sous-marins qui sont capables pratiquement d'attaquer les bateaux du débarquement. À ce moment-là, c'est pratiquement un torpille qui est monté en dessous d'un deuxième torpille. Le premier torpille est plus ou moins construit comme un sous-marin miniature.
Oui, quand on les voit, le pilote est quasiment assis sur la torpille elle-même.
Voilà, c'est ça. Et pendant 4 jours, il doit rester éveillé. Et ça, c'est un peu la difficulté. Et c'est pour cela qu'on fait ce test. Et pour faire un test de ce type, on n'a pas des volontaires, comme ça a été fait par la Wehrmacht en 39 encore pour le pervitine. Ici, en 44, on se sert pratiquement des camps de concentration. À Sachsenhausen, on fait des tests, on laisse marcher les gens qui ont pris ces comprimés pendant 90 kilomètres avec des bagages, etc., pour savoir, mais est-ce qu'ils peuvent tenir pendant 3 jours avec un certain effort, etc. Ça sont des tests systématiques qui ont été faits, qui était mortel à peu près pour un quart des
on imagine, effectivement.
Des cobayes, entre guillemets. Et lorsqu'on a utilisé ces drogues ensuite en service, la plupart des soldats qui ont pris ça ne sont pas rentrés de leur mission. À ce moment-là, on a pratiquement plus ou moins la certitude que c'était plutôt un échec que vraiment quelque chose de réussi.
Alors Xavier Paulès, l'après-Seconde Guerre mondiale est aussi un moment où un nouveau pouvoir qui s'installe en Chine va se poser la question de l'usage des drogues, alors pas forcément dans le domaine militaire, parce que la Longue Marche n'a pas été tenue par ceux qui l'ont faite, parce qu'ils utilisaient de la pervitine en l'occurrence, mais en général sur la question, en reprenant à nouveau frais, pourrait-on dire, tout ce qui avait été dit sur l'importation de cette drogue sur le territoire chinois au XIXe siècle, eh bien, le nouveau gouvernement communiste et Mao et tous ceux qui l'entourent vont combattre de façon systématique cette question de l'usage de l'opium en disant « Voici plus d'un siècle que l'opium a été introduit de force en Chine par les impérialistes en raison du gouvernement réactionnaire et du mode de vie décadent de la bureaucratie féodale, des compradors et des seigneurs de la guerre. Non seulement l'opium n'a pas été supprimé, mais il nous avait été obligé d'en cultiver. » Et il va y avoir un travail, disons, volontaire de supprimer la drogue du territoire chinois.
Oui, il n'est peut-être pas inutile de rappeler quand même au passage, après cette belle citation, cette belle profession de foi, que le Parti communiste chinois a été un narcotrafiquant.
Bien sûr, il faut le dire aussi.
Il faut le dire, parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on entend beaucoup en Chine. Et c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale en particulier, enfin la guerre sino-japonaise, donc 1937-1945, le Parti communiste chinois a survécu économiquement largement en trafiquant l'opium produit dans les zones qu'il contrôlait avec les zones sous l'administration administration Kuomintang ou administration japonaise. Moyennant quoi, bon, c'était une question de survie, effectivement, politique pour lui. Ça voulait pas dire qu'ils ont fait ça de manière... ils n'étaient pas des promoteurs de la drogue, au contraire. Hein, les communistes interdisaient la consommation dans les zones sous leur contrôle, quitte à exporter, comme je viens de le dire, vers les zones sous contrôle Kuomintang ou japonais. Alors néanmoins, ils ont évidemment entonné la chanson de l'opium comme drogue pour affaiblir la Chine, pour asservir la Chine, les guerres de l'opium comme une agression impérialiste. Et effectivement, en 1950, ils ont lancé un grand plan de lutte contre la drogue qui a été un succès très rapide pour deux raisons. La première raison, c'est que l'opium, dès cette époque-là, était en très net recul dans la société chinoise. C'était une drogue en pleine perte de vitesse, donc ça rendait la tâche assez facile. Mm-hmm. Deuxième raison, tout simplement, le degré inédit de contrôle de la société chinoise que le Parti communiste chinois avait acquis à cette époque-là. Si vous voulez supprimer une drogue, chers amis, il faut le savoir, il faut mettre en place une société totalitaire. Il n'y a que ça qui marche, à peu près. Donc voilà, le prix à payer n'est pas...
Nos auditeurs ont bien entendu.
Message reçu.
Et donc, après, je termine juste pour dire que le Parti communiste chinois a fait un usage intensif de la drogue, quand bien même il l'avait supprimé dans sa propagande. C'est-à-dire qu'il a d'abord mis en avant le fait qu'il était le premier à avoir réussi dans l'histoire du monde ou dans l'histoire de la Chine à avoir supprimé la drogue. Donc la Chine était le pays sans drogue, par opposition...
Drug free.
Exactement. Donc le pays sans drogue, par opposition à un Occident décadent, par opposition aux régimes qui ont précédé le Parti communiste chinois en Chine. Donc premier élément de propagande. Deuxième élément de propagande, qui est toujours vrai aujourd'hui, qu'il faut souligner, dans la lecture rétrospective de la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste chinois présente les Japonais comme ayant drogué volontairement les Chinois pour les affaiblir, pour les asservir, pour...
En particulier dans les provinces du Nord, conquises plus tôt, etc.
Tout à fait.
Ça fait partie effectivement de la propagande du gouvernement chinois contre les Japonais à ce moment-là.
Et des communistes après cette époque-là. Et c'est toujours vrai, aujourd'hui. Et c'est un des éléments qu'on n'a peut-être pas tendance à mettre très en avant. On parle toujours du massacre de Nankin, mais il y a aussi ça.
Anaïs Kien.
Oui, parce que finalement, si on élargit un petit peu à l'Asie, de manière générale, il est moins question de droguer les populations, les sujets coloniaux pour les soumettre, que de financer finalement les administrations coloniales, l'Indochine, les Indes néerlandaises, l'Inde tout court, ces administrations qui se servent de ce commerce de drogue, opium ou autre, finalement, pour alimenter leur budget de domination.
Oui, c'est une question de gros sous. Hein. Quand il s'agit de faire arriver l'opium au milieu du 19e siècle, c'est les marchands britanniques qui veulent s'enrichir. Quand il s'agit de faire fonctionner une administration coloniale, l'opium est utilisé pas pour affaiblir la population, pas pour la servir, mais tout simplement pour des raisons financières et fiscales. C'est une facilité fiscale
c'est
remarquable.
C'est une guerre commerciale davantage qu'une guerre conventionnelle, cette histoire de drogue finalement. Ce rapport à la drogue et à la guerre dont on parle depuis le début de cette émission, il est question avant tout de commerce et d'argent.
L'opium est le nerf de la guerre, dans un certain nombre de guerres, au sens où c'est la chose qui permet de rapporter de l'argent. Et ceci est vrai dans les guerres civiles en Chine, dans les années 1920-1930 en particulier. Les seigneurs de la guerre, dans l'époque du Lotus Bleu, si vous voulez, les seigneurs de la guerre, très largement, se combattent les uns les autres avec comme ressource principale l'opium.
Alors, si on vient dans cet après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à nous, Laurent Henninger, qu'en est-il de cette question, de ces synthétisations, pourrait-on dire, de nouvelles drogues ou nouveaux médicaments qui permettent de soutenir l'attention des soldats? On a dit que l'Allemagne avait fait des tentatives dans ces années-là, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, les États-Unis en ont fait aussi, et les États-Unis depuis, et sûrement d'autres pays, et peut-être même la France, puisqu'on n'en parle pas, doivent faire à peu près la même chose, justement. Alors, est-ce que ce sont des drogues? Est-ce que ce sont des médicaments? Est-ce que ce sont des façons de tenir plus longtemps au combat ou de tenir plus longtemps dans la préparation du combat? On ne peut pas dire, mais en tout cas, il y a cette question d'une synthèse chimique, pourrait-on dire, de médicaments spécifiques, Laurent Henninger.
Oui, comme je commençais à le dire tout à l'heure, à partir du moment... plus on s'avance dans la modernité et dans la modernité technologique, plus les armes sont inhumaines, non pas au sens moral, mais au sens premier du mot, c'est-à-dire dépasse les capacités du système nerveux et cognitif de l'être humain. Donc, de plus en plus, l'être humain est tenté d'essayer de rattraper les armes
qu'il fabrique lui-même.
Qu'il fabrique lui-même, puisque le corps humain est dépassé. Ça, de toute façon. Alors, dans la période actuelle, il y a trois choses. Il y a d'une part les recherches secrètes. Services de psychiatrie et de neuropsychiatrie militaire des armées des grands pays. Alors j'ai cité les États-Unis, mais tous les autres sont concernés, y compris la France. Mais c'est vrai que ces pays communiquent peu sur ces questions-là.
On l'a noté.
Non pas tellement pour des raisons morales que c'est parce que c'est des raisons proprement stratégiques. C'est-à-dire que par exemple, ils travaillent sur des substances qui vont permettre à des pilotes des avions transportant les bombes nucléaires, dans le cas des systèmes de dissuasion nucléaire, de voler plus longtemps. Et donc les performances de ces drogues-là, ou de ces médicaments, parce que là c'est un peu les deux à la fois, sont du secret au même titre que le code de la bombe.
Bien sûr.
Voilà, il y a ça. Deuxièmement, il y a le fait que la chimie et les labos clandestins se répandent, et que par exemple, alors on parle beaucoup ces temps-ci avec l'affaire syro-irakienne, ISIS, Daesh, etc., on parle beaucoup du captagon, vraisemblablement qui serait assez facile à fabriquer, paraît-il.
Et qui permet quoi, justement
Et qui permet, alors justement, un petit peu comme la pervitine, de rendre les types plus, à la fois plus capables de veiller plus longtemps, mais également de posséder plus d'énergie. Et de... Donc ça les rend... Alors je sais pas exactement le terme médical, mais c'est ce qu'on appelait dans le vocabulaire des drogués dans les années 70 du speed, vraisemblablement. On parle beaucoup du fait que les troupes de l'ISIS seraient gavées au captagon.
Mais est-ce
alors
que
là
ça
encore,
fait
il faudrait voilà. voir, voilà. C'est pas sûr.
Parce que tout de même, ce qui est important et ce qu'il faut dire, c'est que de tout temps, Stephen Martens, l'ennemi a utilisé... l'usage par celui qui était en face supposé de ces drogues comme étant une façon de le déshumaniser. Pendant la Première Guerre mondiale, la cocaïne était supposée être faite par les Allemands et envahir les villes européennes et la ville de Paris en particulier, parce que justement l'ennemi avait une cinquième colonne qui était la colonne de la drogue, d'une certaine façon, et on a toujours eu tendance à considérer que celui qui était en face utilisait des ressources peu loyales, pourrait-on dire, pour pouvoir continuer à faire le combat.
Et ensuite, c'est pratiquement la fin de la guerre, par exemple, c'était tout simple, les Américains ont récupéré tous les résultats des tests organisés par la Wehrmacht, ou même dans les camps de concentration, pour les utiliser ensuite. Ça veut dire un certain nombre de drogues qui ont été ensuite
synthétisées,
optimisées par les Américains, Par exemple, pour les interrogatoires, pour avoir plus de résultats lorsqu'on s'adresse à des prisonniers de guerre, etc. À ce moment-là, sont pratiquement une évolution des choses qu'on a déjà découvert entre guillemets du côté allemand.
Vous voulez dire qu'il n'y avait pas que von Braun et les V2 et les fusées américaines.
Et un deuxième élément qu'il faut peut-être aussi savoir aujourd'hui, la guerre, ça se fait aussi au niveau du sport.
Oui.
Ça veut dire une partie de
D'ailleurs, l'équipe d'Allemagne, dit-on, en 54 a gagné la Coupe du Monde parce qu'elle avait utilisé le
Terminus. C'est une chose, mais...
Basse attaque. Emmanuel Laurentin.
Non, mais j'ai lu ça, mais je ne sais pas si...
Mais ce qui est sûr, par exemple, celui qui a découvert le Pervitin était en fait ensuite le chef du dopage de la RDA. Mm-hmm. Ça veut dire là, il y a une certaine continuité. Et du côté ouest allemand, c'est la même chose. Le Pervitin a été utilisé par un boxeur qui est mort dans le ring. Et c'est pour cela qu'à partir de 68, on a commencé à se poser la question. Mais quel est le sens de ce type de drogue? Est-ce qu'il faut peut-être aussi, au niveau du sport, faire attention, etc.
Alors que nos sportifs français ne boivent que de l'eau claire et rien d'autre pour pouvoir accomplir toutes leurs performances. En particulier en 1998, lorsqu'on a gagné cette même Coupe du Monde avec Ronaldo qui avait eu un petit malaise, mais c'était pas grand chose.
L'eau belge.
Un dernier mot, Laurent Inger, sur ces questions.
Oui, mais dans le prolongement de ce que vient de dire Stéphane Mertens, alors cette fois-ci, c'est pas ISIS et Daesh et c'est pas le Captagon, mais je sais que les armées occidentales qui combattent aujourd'hui, par exemple, les Américains en Irak ou toutes les troupes de la coalition qui ont combattu en Afghanistan, ont un problème qui se pose de plus en plus avec leurs troupes, avec les soldats, c'est qu'ils se gavent de boissons énergisantes.
Mmh. Oui, mais ça, ils sont pas tout seuls. À se gaver de boissons énergisantes.
Non, mais justement, c'est-à-dire que ce sont des pratiques de la jeunesse ouvrière, de la jeunesse populaire de France, des États-Unis, etc., qui se gavent de boissons énergisantes, qui se gavent aussi de produits pour la musculation et tout ça, et qui pensent qu'au combat, ça va leur être utile, et qui importent ces pratiques dans les armées quand ils sont...
Et ça n'est pas forcément aussi utile que cela, en l'occurrence.
Non, et là aussi, ça rend des types ultra nerveux, et c'est pas forcément bon.
Merci à tous d'avoir évoqué cette question. Rappelez-nous, Laurent Henninger, le livre qui sortira à Oxford University Press, donc dans quelques mois, et qui devrait faire déjà une sorte de constat autour de cette question-là.
Ça s'appelle Shooting Up, A Short History of Drugs and War, une brève histoire des drogues et de la guerre.
Et merci en tout cas d'avoir joué le jeu, de réfléchir à cette question-là, de dégonfler certaines des idées que l'on pouvait avoir sur ce sujet-là. Merci à vous Stéphane Martens et également à vous Xavier Paulès. Stéphane Martens, vous êtes le biographe d'Hermann Göring et Xavier Paulès, vous êtes auteur de deux livres autour de la question de l'opium, l'un chez Payot et l'autre à l'École des études en sciences sociales. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Nous avions la chance d'avoir à la technique avec nous aujourd'hui Alexandre Dang et à la réalisation Françoise Camard. Demain, nous vous parlerons d'expositions dans la Fabrique de l'Histoire, d'expositions d'histoire Moïse au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris, mais également l'ouverture ou la réouverture du Musée de l'Homme à Paris. Et puis nous évoquerons d'autres sujets dans cette émission, en particulier un documentaire qui sort en salle, qui vient de sortir en salle, qui s'appelle Censored Voices, autour des soldats justement de l'armée israélienne pendant la guerre des Six Jours.